dimanche prochain avec Monsieur Johnson et vous envoie ses amitiés.
Qui est extrêmement grave et qui produit un son beaucoup plus agréable à mon oreille que celui que je suis en train de vous infliger. Et c'est avec cette voix-là que je les lis, donc 100 décibels, mais une voix que j'entends dans ma cage thoracique.
À la Jeanne Balibar.
Bien, alors, perlimpinpin. Perlimpinpin, eh bien moi je ne sais pas ce que ça veut dire, alors...
Oh, que j'aurais aimé avoir la voix de Jeanne Balibar.
Quelque chose, hein.
Oui, c'est vrai.
Je pense à un moment donné, vous parlez de... J'adore cette expression de l'hôpital qui se plaint de la... Non, de la charité.
Et que l'hôpital qui se moque de la charité, oui.
En changeant les deux mots.
Oui, c'est la cantine qui se moque du réfectoire.
Oui, je trouve ça... J'adore le mot réfectoire, d'ailleurs, je trouve phonétiquement, oui. Ça sonne bien. Vous faites comment ? Elles viennent toutes seules ou bien à un moment donné, vous dites, parce que c'est quand même à chaque... C'est aussi, j'imagine, le plaisir et de lecteur et de l'écrivaine, c'est d'avoir des moments... léger de plaisir.
C'est à la fois léger et très difficile. C'est bon quand c'est juste deux répliques, ça c'est plutôt facile à faire. Mais quand ce sont des dialogues plus longs, ce qui est régulièrement le cas avec moi, ça devient très 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 agencé. Pour avoir écrit beaucoup de dialogues dans ma vie, j'ai pu m'apercevoir que le chiffre d'or, c'était le chiffre 4. C'est-à-dire que pour qu'un dialogue soit exactement comme il doit être, il faut que chaque fois qu'on écrit une nouvelle réplique, on connaisse les 4 suivantes. Si on fait un chiffre inférieur, ça donne un truc sans queue ni tête. Si on fait un chiffre supérieur à 4, alors c'est trop construit et ça perd tout naturel. Mais quand on reste dans la préméditation par 4, alors c'est juste ce que ça doit être. À la fois, ça peut être plein d'esprit et en même temps très très prémédité sans l'être trop. C'est aussi pour ça que c'est assez difficile à écrire, c'est que c'est une partie d'échec dont il ne faut jamais perdre le fil. Si vous perdez le fil, vous êtes perdu.
Faites-moi la faveur de goûter.
Non, non, sans façon.
Manger.
Non.
Bouffer.
Non.
J'ai écrit des livres entièrement en dialogue, déjà ne serait-ce que le premier, Hygiène de l'assassin. Je vous assure qu'il y avait des moments où j'avais l'impression de devenir dingue. Parce qu'il ne faut jamais, jamais perdre le fil, tout le temps rester dans cet axiome de connaître les 4 répliques suivantes, connaître les 4 répliques suivantes, ne pas préméditer la 5e, sinon ça va trop loin. Alors voilà, rester juste sur ce fil-là. Toute personne qui a lu Cosmétique de l'ennemi peut se douter que j'ai vraiment failli devenir dingue en l'écrivant.
Oui, je peux imaginer ça. Qu'est-ce qui reste de ces... De tous ces livres qui ont été écrits, même peut-être pas publiés, quand vous entamez, là, vous allez entamer le 100e, j'imagine. Est-ce que vous faites un petit moment symbolique en disant 100e, c'est quand même pas rien, quand on pense
non,
à des auteurs comme Salinger ou quoi.
Ouais. Surtout, il faut n'y mettre aucune solennité. Si vous y mettez de la solennité, vous êtes perdu. Parmi les choses qui m'ont maintenu en vie comme auteur, c'est par rapport à moi-même et à ce que je fais, mais une humilité plus que grave. Il faut se dire, même si tu as l'impression que tu es en train d'écrire la chose la plus importante de ta vie, rappelle-toi que ce n'est rien. Rappelle-toi que ce n'est rien, parce que si tu crois que c'est quelque chose, tu es foutu.
Mais c'est facile à dire, ça, si je peux me permettre. Ça paraît très théorique comme ça.
Ça paraît très, très théorique, mais j'ai trouvé une façon très pragmatique de le vivre, c'est que, à l'instant où je termine un manuscrit, vous savez, quand on termine un manuscrit, quand on sait qu'on termine un manuscrit, on entend des trompettes dans sa tête qui sont en train de vous sonner une espèce de musique colossale. Eh bien, ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est tout de suite commencer le suivant. Et quand je dis tout de suite, c'est tout de suite. Vous écrivez fin en bas du manuscrit précédent, vous prenez votre nouveau cahier tout de suite, vous commencez tout de suite le suivant. Comme ça, vous n'avez pas le loisir d'écouter les trompettes qui vous jouent une espèce de musique grandiose qui vous fait croire que vous avez écrit quelque chose de sensationnel. Mais ça suppose une certaine autorité sur soi.
Town, a handsome God's room.
chanteuse Björk, violemment heureuse dans ce morceau au titre explicite de 1993. Björk, dont les morceaux, si Amélie Nothomb possédait un ordinateur, ferait sans doute partie des favoris. Mais il n'en est rien, et c'est ce qui nous amène à la suite de la rencontre avec notre compatriote, écrivaine de son état. Il sera question de carnet, d'un instrument de musique mal aimé et de Jésus.
Des Belges bien barrés
sur la première.
Donc un carnet, c'est pas un ordinateur, c'est un carnet.
Je ne possède pas d'ordinateur, je ne sais pas comment ça marche. J'écris de préférence sur des cahiers à Thomas.
Ah, création quelques... belge, hein.
Ah oui. Alors, bon, comme je suis malheureusement assez rarement en Belgique ces derniers temps, parfois j'ai dû apprendre à écrire sur des cahiers pas à Thomas. Ça marche aussi, mais moins bien. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire le cahier à Thomas. Pourtant, je ne me sers même pas du principe. Vous savez qui permet de...
Mais... Bah, expliquez-le pour les nombreuses auditrices
et heures qui ne connaîtraient pas. Le cahier à Thomas, c'est ce cahier génial où on peut déplacer les pages à l'intérieur.
Attention, je vais faire une cascade. Vous êtes prête en direct?
Oui. Écoutez. Voilà le bruit caractéristique. On devrait sampler ce bruit. Björk devrait faire quelque chose avec ce bruit. Parce que c'est vrai que le bruit que fait une page à Thomas quand on l'enlève du cahier délicatement, comme vous venez de le faire, est un bruit exquis.
Je le refais un petit coup.
C'est génial, j'adore ce bruit. Björk, qu'attendez-vous pour faire quelque chose de ce bruit?
Vous voyez Björk?
Je ne l'ai jamais rencontré, donc je suis pétrifiée d'admiration pour Björk. Si je la rencontrais, je ne serais même pas capable de la vous voyez. Je pense que je la regarderais bouche bée, avec stupeur et tremblement.
Justement, comme on est en radio et on peut se permettre de plein de choses, parce que c'est la première et que je la remercie de nous donner cette liberté, qu'est-ce que vous aimeriez bien écouter d'elle?
Oh, il y en a tellement d'elles que je vénère, mais il y en a une que je trouve absolument sublime, qui est Pluto. Elle dit qu'elle va exploser et ça m'arrive très souvent d'avoir cette impression que je vais exploser. À ce moment-là, j'écoute plutôt de Björk et ça m'économise une explosion.
C'est pas mal.
Oui, c'est pas mal.
Double bénéfice, quoi.
Oui, c'est vrai. Il y a des très belles choses à la trompette. La trompette est un instrument qu'on a tendance à croire militaire, alors que non, il y a des très très belles choses chez Handel avec de la trompette. Et Handel, c'est tout sauf de la musique militaire.
Ou Chet Baker.
Ah, Chet Baker aussi. Vous me mettez n'importe quoi à la trompette. Pour moi, c'est l'expression du triomphe. Pas du triomphe militaire. L'impression d'avoir triomphé d'une épreuve. C'est très agréable.
C'est comme ça que vous... Parce que là, vous savez ce que c'est maintenant. La difficulté, j'imagine, d'écrire, de tenir ce fameux fil, ce fameux équilibre, d'arriver à la fin. Alors c'est dingue, parce que ces livres qui se vendent très bien et qui provoquent quand même beaucoup de bonheur, c'est des épreuves.
Ah oui, mais comprenons-nous bien. C'est des épreuves que j'aime. J'aime ce qui est difficile. Je trouve que le plaisir est une expérience difficile. Quand une chose est facile, je trouve qu'elle ne procure pas beaucoup de plaisir. Mais donc j'éprouve une extrême difficulté à écrire mes livres, mais c'est justement pour ça qu'ils m'apportent tellement de plaisir.
Est-ce que c'est un peu réducteur de dire qu'il y a quand même un petit côté judéo-chrétien là-dedans, non?
Je pense que c'est plus fort que ça. Je ne nie pas que j'ai un énorme héritage judéo-chrétien. S'appeler nos tombes sans avoir un énorme héritage judéo-chrétien, ce serait juste pas possible. Hein. Je pense que c'est aussi quelque chose de très nietzschéen, la jouissance physique a triomphé d'une épreuve.
Oui, à vaincre sans péril, tout ça. Quoi.
Voilà.
Il y a un morceau d'un groupe canadien qui s'appelle Arcade Fire, que j'aime vraiment.
J'adore.
Quel album?
Oh, alors, je ne connais jamais les albums parce que j'ai cessé. C'est très bête d'ailleurs de cesser d'écouter les musiques par album parce que c'est. Une fois de temps en temps, il faut se forcer à écouter l'album parce que ce n'est pas un hasard si les albums sont dans tel sens. Mais bref, c'était. Comment ça s'appelle ? C'est pas Révolte, comment ça s'appelle ? Enfin bref, que vouliez-vous dire
Rebellion.
Sur Rebellion. Voilà,
très,
c'est
très
celle-là.
Beau disque.
J'adore.
Le premier album, je pense d'ailleurs.
Oui.
Et donc, dans l'avant-dernier album, je pense, s'appelle Everything Known, ou même peut-être le dernier, il y a un morceau qui s'appelle Creature Comfort, où en gros, il parle d'une fille ou d'un garçon adolescente qui est devant le miroir et la personne dit « Saying God », donc « Saying God, make me famous, if you can't, make it painless ». Donc, rends-moi célèbre, et si tu n'y parviens pas, fais que ce soit indolore. Sing God, make me famous, if you can,
just make it painless, just make it painless. C'est beau. Je comprends ça, c'est une pensée d'adolescence. Ça. Bon, moi, ma pensée d'adolescence, c'était beaucoup plus radical que ça. C'est, est-ce que je vais vraiment vivre, ou est-ce que... Donc, il n'y avait pas beaucoup de place pour le désir de devenir célèbre là-dedans. Mais... Ce qui était terrible, c'était finalement l'impression de ne pas avoir tellement le choix. Parce que finalement, je disais, mourir, j'avais vraiment essayé.
C'est vrai ?
Puis ça ne marchait pas, quoi. Ça ne marchait pas. Je sentais que j'étais finalement très, très, très accrochée à la vie. Donc cette impression de ne pas avoir le choix était odieuse.
Mais cette idée de... Vous dites que c'est secondaire de célébrité, mais... Dans le fait d'écrire, il y a quand même quelque chose de l'ordre de vouloir le partager. C'est quelque chose qu'au début, en tout cas, vous faisiez pour vous ou bien avec vraiment l'idée d'aller vers les autres ?
Ah non, vraiment, au départ, c'était vraiment pour moi parce que ce qui m'a rendu capable d'écrire, ça a été de... Voilà, on parlait des textes qui vous ont sauvé la vie. Un autre texte capital qui m'a sauvé la vie, c'est « Lettre à un jeune poète » de Rainer Maria Rilke. C'est d'avoir lu ce texte, là aussi à l'âge de 17 ans, décidément âge crucial, que je me suis sentie autorisée à écrire. Or, si vous lisez ce texte, vous verrez qu'il n'est en rien question de partage. Un jeune poète s'adresse à Rilke en disant « Maître, voici mes vers, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et Rilke lui fait cette réponse absolument sublime. Il lui dit « Jeune homme, si vous voulez, je peux vous dire ce que je pense de vos vers, mais je pense que mon opinion n'a aucun intérêt. La seule question que vous devez vous poser, c'est est-ce que oui ou non, sans aucune complaisance envers moi-même, est-ce que oui ou non, je peux continuer à vivre sans écrire ? Du moment que oui, il y a une possibilité que vous puissiez continuer à vivre sans écrire, alors n'écrivez pas, parce que ça veut dire que votre écriture n'est pas nécessaire. Du moment que vous êtes absolument sûr que vous ne pouvez pas continuer à vivre sans écrire, alors continuez à écrire, forcément vous aurez du talent un jour. Tout est dit. À 17 ans, je lis Rilke, tombe sur ce passage. Et moi qui n'osais pas m'avouer que je voulais écrire, pas du tout pour être écrivain, mais parce que je voulais écrire, parce que ça n'allait pas du tout. Là, je me suis vraiment posé la question. Et bon, la réponse était évidemment que je ne pouvais pas continuer à vivre sans écrire. Vous m'auriez rencontré à 17 ans, franchement, vous n'auriez pas misé un demi-centime sur moi. Je ne parle même pas en tant que succès, hein, en tant qu'être vivant. Donc, et comme somme toute, je venais de lire Nietzsche et de décider que j'allais continuer à vivre finalement, eh bien, j'allais donc écrire, puisque c'est ce qui allait me permettre de continuer à vivre.
Et vous fites bien, si je peux me permettre.
Je suis très contente d'être toujours en vie. L'expérience en valait la peine finalement. Mais à l'époque, j'en étais pas sûre. Je me disais, se donner tellement de mal pour un truc qui visiblement n'en vaut pas la peine. C'est ce que j'ai envie de dire aux adolescents, parce que je vois qu'il y a quand même beaucoup d'adolescents, pas seulement d'adolescents, mais surtout d'adolescents qui sont dans le cas. Ça vaut la peine de vivre. Ça n'en a pas l'air. Mais si, ça vaut quand même la peine de vivre, parce qu'on ne peut pas imaginer ce que la vie nous réserve. Et bien sûr, tout ne va pas être formidable, mais il y aura quand même des choses qui vaudront sacrément le détour.
Une bouche où prétendait certains, on aurait même vu un sourire, un nez de cet homme poussant la porte. Et qui commandait d'une voix forte, j'ai soif de la vie, qu'on m'en apporte.
Soif, enfin c'est dans Soif, vous dites quand un lieu commun est proféré pour la première fois, il produit son petit effet. J'aime bien cette petite phrase, c'est oui. Mignon. Ben, c'est Jésus, hein, parce que là vous avez quand même l'outrecuidance de parler, de vous mettre dans la peau de Jésus, ce qui n'est quand même pas rien, et ce qui à mon avis ne va pas faciliter votre requête auprès du Vatican.
Non, c'est possible en effet.
Et donc c'est Jésus hein, qui parle à travers votre plume. On est quelqu'un de meilleur quand on a eu du plaisir. Est-ce que ce ne serait pas ça, justement, qui met à mal toute cette espèce de sacro-sainte souffrance chrétienne ?
Mais bien sûr, c'est une aberration. Bon, bien sûr, la morale judéo-chrétienne en est très coupable, mais elle n'en est pas la seule. Là, tout à l'heure, je parlais de Platon avec admiration, mais je pourrais aussi parler de Platon avec exécration. C'est Platon qui a quand même inauguré ce discours de rejet du corps et de célébration de l'âme qui, a priori, bon, j'ai envie de dire que c'est juste une bizarrerie, sauf que non, parce que le rejet du corps, c'est le rejet du plaisir. Et le plaisir est quand même la principale nourriture de l'âme, contrairement à ce que, justement, on nous apprend dans la morale judéo-chrétienne où, soi-disant, plus on priverait son corps de plaisir, plus on exalterait son âme. C'est totalement faux. Plus on éprouve du plaisir, plus on célèbre son âme et plus on élève son âme. Et je sais de quoi je parle parce que je me suis énormément privée de plaisir au cours de mon interminable adolescence et je peux vous dire que j'étais devenue mais parfaitement sordide. Je comprends que je voulais mourir, il y avait de quoi. Hein. Donc maintenant que je suis un être qui éprouve quand même pas mal de plaisir dans sa vie et qui en tout cas fait tout pour en éprouver un maximum, bon, je ne vais pas dire que je vais tout à fait bien, hein. Ça se saurait si j'allais tout à fait bien. Mais enfin, le simple fait de pouvoir être absolument sûr qu'on va avoir de la jouissance tous les jours, c'est pas mal. Hein. L'amour, la mort, la soif.
C'est ça, oui.
C'est mon grand triangle. Oui, c'est clair. La mort, j'ai fini par comprendre que
pas
du tout précipiter les choses. Bien sûr, il ne faut en aucun cas en avoir peur. Mais ça viendra, voilà, à son heure. L'amour, bah, ça, je vous apprends rien. Je crois qu'on est quand même tous d'accord. Mm-hmm. Le troisième côté du triangle, le troisième angle, c'est la soif. La soif, finalement, c'est le chaînon manquant. Bon, alors évidemment, ça vient de la part de quelqu'un qui a tout le temps soif, particulièrement de champagne, mais pas que. Je suis aussi une grande buveuse d'eau. Mais la soif, c'est le parfait chaînon manquant entre le corps et l'esprit. Parce que vraiment, la soif, c'est à mi-chemin entre le corps et l'esprit. La soif est parfaitement mystique et parfaitement physique. C'est pour ça que je dis aux gens de cultiver leur soif. C'est pas du tout une telle évidence que ça, parce que je me suis aperçue que beaucoup de jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas la soif. On vit dans un monde où la boisson est toujours à portée de la main, ce qui est très bien, hein, bien, c'est formidable, et ça devrait être comme ça partout. Ça n'est pas comme ça partout. C'est très bien de pouvoir boire à tout instant. Sauf que ça donne aussi des gens qui ne connaissent pas la sensation de soif, et ça, c'est tout de même dommage. Connaître la sensation de soif est un enrichissement considérable. Donc c'est un conseil que j'ai donné à beaucoup de jeunes. Écoutez, restez un après-midi sans boire. Pas plus d'un après-midi. Hein. Mais un après-midi sans boire pour voir l'effet que ça fait, pour voir les pensées que ça donne d'avoir bien soif.
Et alors, dans le même livre, vous dites, vous faites dire au Christ, dont j'ai appris que le prénom voulait, enfin, Jésus voulait dire doux.
En grec, Christos veut dire doux.
Et donc, il est en train de subir ce calvaire, hein, absolument innommable, qui est la crucifixion. Il dit, le ridicule ne tue pas, je le regrette. Et puis plus tard, la condition humaine se résume ainsi, ça aurait pu être pire. Vous pensez à ça?
Comment ne pas le penser au moins une fois par jour ?